I quit your bones.
Restless. It's just music.
This will twist your head.
Oh, but dis donc, qu'est-ce que c'est que ça?
Restless.
Restless.
Bienvenue à vous toutes et à vous tous dans ce podcast, et oui, qui est dédié à quoi ? Au football. Ça déborde de foot, c'est tous les jeudis avec Kylan, bien évidemment, qui est là pour vous donner les potins, mais aussi eh bien, les tendances, les choses qui se passent. Enfin, il nous raconte le foot et il le fait très bien. Salut Kylan !
Salut Pierre, bonjour à toutes et toutes. Alors l'actualité, on ne s'est pas vu depuis 2 semaines, donc je vais essayer de rattraper. C'est pour ça, là, j'ai adopté un débit rapide, comme tu vois. Kelly Meafoua, 3e ligne de Montauban en Pro D2. Bon, c'est du rugby, hein. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu con ? En fait, il est mort parce qu'il a voulu fêter la victoire de son équipe face à Narbonne et il a sauté d'un pont dans le Tarn et il est mort.
Ah ouais, j'étais pas au courant de cette histoire, mais effectivement, bon, c'était pas une bonne idée. De toute façon, de se jeter d'un pont, c'est jamais une très bonne idée.
Alors, ne le faites pas.
Bah non, faut pas le faire. Bah, de se jeter de nulle part d'ailleurs, hein, à part si vous êtes avec des professionnels qui sont là pour le faire avec vous. Mais sinon, non, il faut pas le faire. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est horrible comme histoire.
C'était une mauvaise idée. Nantes, qui a remporté la Coupe de France. Mais après, selon les informations de Presse Océan, 3 membres de la direction du FC Nantes ont été placés en garde à vue ce mardi dans le cadre d'une enquête portant sur des transferts de joueurs. L'enquête qui va se poursuivre, et selon le procureur de la République de Nantes, les faits reprochés concernent des commissions versées à des intermédiaires, tu vois, des petites magouilles. Les gardes à vue, c'est des proches collaborateurs de Kita, qui est le président du club, ont été relâchés directement dans la soirée. Mais bon, tout ça va se suivre. Mm-hmm. Oui. À côté de ça, il y a les Niçois, désireux de faire mal et de blesser les supporters du FC Nantes après leur défaite en Coupe de France. Ils ont repris une chanson dans leur stade, qui était une chanson en hommage à Emiliano Sala, le joueur argentin qui est mort il y a quelques années. Et ils ont chanté « C'est un Argentin qui ne lâche rien, Emiliano Sala, Emiliano Sala ». Ça, c'était la version originale. Et ils ont repris « C'est un Argentin qui ne nage pas bien, Emiliana sous l'eau, Emiliano sous l'eau ».
Oh là là.
Voilà. Donc, un peu odieux comme chant. Et ça a pris une tournure médiatique, forcément. Ils ont été lâchés par leur propre club, par les dirigeants, par les joueurs, etc. Et eux, donc c'est le Populaire Sud-Nice, c'est un collectif d'ultra, et ils ont tenté de se défendre dans un communiqué en plaidant le second degré et en disant « Nous sommes dans une société où une minorité nous impose sa vérité et nous dit également de quoi l'on peut rire. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, que les indignés et autres donneurs de leçons s'insurgent pour de vrais sujets. Repose en paix, Emiliano. » Ouais.
Bof. Ouais, bof. Hein. Je crois qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on ne peut pas plaisanter. Et là, c'était affreux. Enfin, je veux dire, c'est des monstres d'avoir chanté ce genre de truc-là. Je veux dire, tout le monde est indigné. C'est pas uniquement une minorité. Bref.
Oui, c'est l'effet de groupe. Ça fait faire des bêtises.
Mmh. Ah, bah ça. La jalousie.
Mmh. Autre réjouissance. Nouvelle enquête de Romain Molina sur le foot en Haïti, qui fait froid dans le dos. Alors, depuis 2 décennies, des employés de la fédération, des arbitres et des joueurs auraient été forcés à des rapports sexuels avec des officiels du football. L'un de ceux qui aurait accepté ses faveurs et ses offrandes ne serait autre que Sepp Blatter, à l'époque président de la FIFA. L'enquête suit son cours, mais il y aurait déjà 34 victimes connues.
Non mais ça, c'est horrible aussi. Putain, mais t'as que des... En termes d'actualité, là, on est quand même dans la monstruosité là, depuis le début.
Ouais, genre, attends, mais j'arrive avec des meilleures nouvelles. C'est un communiqué qui fera date. La Fédération américaine de football a annoncé avoir trouvé un accord historique avec sa sélection féminine ainsi que sa sélection masculine. Les deux conventions collectives qui courront jusqu'en 2028 permettent d'atteindre des salaires égaux à travers des termes économiques identiques, c'est-à-dire que les joueurs et joueuses de la nation, de la sélection nationale, toucheront le même pognon. Voilà.
Très bien. Bon, ça, voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis c'est une nouvelle qui devrait s'appliquer partout, d'ailleurs. Hein.
Après, l'avantage, c'est que l'équipe féminine américaine est l'équipe la plus titrée au monde, alors qu'ils ont une équipe masculine qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas la plus forte. Ça va être plus difficile pour d'autres sélections, tu vois. On est encore sur un écart de x10 entre la sélection masculine et féminine, par exemple, pour l'équipe de France.
Ah oui, x10 quand même. Pff, bien, ouais. Enfin. Bon, il y a du travail, mais ça s'active et ça a l'air d'aller dans le bon sens. C'est ça qu'il faut garder aussi en tête.
Une bonne nouvelle. Maintenant, on est reparti pour du... Ouh !
Trop putain.
Alors, est-ce que tu connais Idrissa Gueye ? un milieu de terrain du PSG qui a été champion d'Afrique il y a quelques mois, qui a gagné la CAN. Et il aurait refusé de jouer contre Montpellier, c'était le week-end dernier. Toutes les équipes arboraient des maillots avec un flocage, donc le numéro et le nom aux couleurs arc-en-ciel. C'était la journée de soutien à la cause LGBTQIA+. Et on s'est rendu compte que, en fait, en conférence de presse, son entraîneur Pochettino l'a un peu lâché en disant que il ne serait pas sur la feuille de match, mais qu'il n'était pas blessé. Et on l'a vu dans le stade. Et il se trouve que l'année dernière, pendant cette même journée de soutien à la cause LGBTQIA+, il se trouve que lui avait aussi fait faux bond, cette fois-ci en déclarant qu'il avait une gastro-entérite. Donc des soupçons ont commencé à surgir.
Évidemment.
Mais il a été très 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 mal défendu et puis pas trop défendu. Donc ce qui pousse à croire que c'était bien intentionnel et que c'était une façon pour lui de refuser de porter ce maillot. Et donc il y a eu plein de réactions du côté français, même du côté des politiques, etc. Et après on a eu pour le moment on attend vraiment la réaction du club, en tout cas de savoir s'ils vont comment est-ce qu'ils vont le... J'allais dire punir, mais est-ce que c'est un enfant pour qu'il soit puni? Mais en fait, qu'il y ait une réaction du club, en tout cas. Mais par contre, il y a eu des réactions d'autres joueurs. Abdou Diallo, qui sont coéquipiers en club, sur Instagram, où il a posté une photo d'eux deux, en disant « On sait tous qui tu es », mais de façon positive, hein, pas de, pour le... Un autre camarade de sa sélection du Sénégal, c'est le joueur de Crystal Palace, Chékou Kouyaté, qui a reposté une photo de Gay et lui à la Mecque avant de partager une autre photo en rappelant qu'il dit Gay est un champion au grand cœur, un champion dans son comportement, champion dans sa générosité et qu'il restera un champion. Ça n'a pas forcément réjoui les fans, les supporters de son club de Crystal Palace, des Eagles. Surtout que c'était quelques jours après le coming out de Jack Daniels, une première en Grande-Bretagne depuis 1990. Un jeune joueur qui a fait son coming out, mais des joueurs homosexuels qui ne font pas leur coming out, il y en a dans toutes les équipes. Donc j'imagine les joueurs du PSG homosexuels ont pas forcément dû se sentir super bien suite à ça. Puis il y a des réactions, et puis il y a des gens qui suppriment leurs réactions. Il y a eu Ismaïl Assar aussi qui a apporté son soutien à Gay, et après il a supprimé son message, et c'est d'autant plus gênant que lui il joue à Watford, et Watford c'est l'équipe d'Elton John. Donc, il y a des supporters qui lui ont demandé de carrément quitter le club, tu vois, suite à ça. Voilà, pour le moment, lui n'a pas réagi. Il y a son entourage qui dit que c'est des gens qui lui veulent du mal, etc.
Oh là là, voilà. Oh là là, ça a l'air très très compliqué. Hein. Après, effectivement, tout le monde se doit de montrer qu'ils acceptent et qu'ils sont ouverts d'esprit. Mais bon, là, c'est un tollé quand même.
C'est totalement honteux de se dire je vais pas jouer parce que dans mon maillot derrière, mon numéro, il est floqué. Couleur d'arc-en-ciel, etc. Et de l'autre côté, il y a des gens qui l'ont défendu en disant que c'était sa liberté de penser et sa liberté d'expression. Mais dans quel monde on vit, tu vois? Moi, enfin, c'est limite une faute grave, et on va voir comment va réagir le PSG, mais
ça va suivre. Si effectivement ça s'avère être ce qu'il pense, c'est de la haine. Donc effectivement, à partir de là, c'est pas bien.
Alors, vu comment il n'a pas été défendu dans les communiqués de presse, et on a essayé un peu d'étouffer le truc et de l'amoindrir, mais sans totalement le cacher, je pense que Pochettino, c'était très compliqué pour lui d'assumer la situation. Et en général, il aurait très pu facilement le couvrir. Quant à Montpellier, il aurait pu dire il s'est blessé à l'échauffement ou quoi que ce soit. Il a dit non, il n'est pas du tout blessé et il ne jouera pas pour des raisons personnelles.
Ah ouais, donc ça veut dire que ça veut dire qu'il y a eu quand même peut-être aussi éventuellement des propos pas jolis quoi.
Ou en tout cas un désaccord entre le coach et les joueurs. Mais bon, voilà, on espère. C'était censé être une journée de soutien. Et ça montre qu'il y a encore du chemin à faire. Mais est-ce que C'est pas grâce à des événements malheureux comme ça qu'on arrive à faire avancer les choses, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a des cons partout.
Oui, oui, bon, ça, je pense que tout le monde est d'accord par contre sur cette phrase, c'est certain.
Et puis de croire que c'est ça la masculinité et qu'il n'y a pas d'homosexualité parce que c'est du football et que c'est un truc masculin, c'est pas parce qu'il n'y a qu'un joueur qui a fait son coming out que.
Qu'il n'y en a pas d'autres.
Il y en a dans tous les clubs, enfin, ah oui. Statistiquement.
Ah bah statistiquement oui, il y en a dans tous les clubs, dans toutes les équipes. Donc voilà. Effectivement, bah bravo. Ça, c'est sûr que ce serait bien que ces gens-là puissent être libres de leurs actes. Bref.
Voilà. Et on va aller du côté des amateurs parce que là, eux, ils nous font rire. Alors le petit monde du football provençal s'interroge ce lundi, donc c'était le lundi déjà il y a 2 semaines, et c'était un match de Régional 2 en Ligue Méditerranée, du côté de chez toi Pierre.
Oui.
Il y a eu un match qui s'est conclu sur un score de 22-1. Un match de football, hein.
Oui, enfin, non, j'entends bien, ouais.
C'était l'AC Arles contre le FC Septem, ou Septem, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit.
Septem.
La ville de Septem. D'autant que le résultat a impacté un petit peu la course à la montée dans ce championnat. Et chacun à leur manière, les deux clubs assurent de part et d'autre d'être de bonne foi. Ce succès étrange avec ce très très...
ce score hallucinant.
Voilà, presque irréel. Donc les Arlésiens entraînés par Michel Estevan se sont, sont passés dimanche soir en tête de la poule C de Régional 2, après ce résultat, grâce à la différence de but. Donc c'est ça qui nous intrigue, et qui intrigue surtout le FC Martigues qui était premier, et de voir que en championnat, t'arrives à les battre 22-1, surtout qu'au match aller, c'était pas du tout ça les scores. Enfin, il y a d'autres trucs. Et eux, ils disent, ouais, mais tu sais, nous, on est des amateurs, c'est la fin du championnat, l'équipe adverse, ils avaient complètement... ils s'en foutaient, et voilà, c'est des choses qui arrivent.
Ouais, bon, après, c'est sûr que ça peut être vrai, mais bon, c'est quand même... Ouais, c'est pas... Et puis c'est dans le sud-est, hein, donc on se pose forcément beaucoup de questions.
Voilà. Didier Deschamps, ça faisait longtemps. La nouvelle liste, donc on aura des matchs qui approchent. C'est, l'équipe de France va se réunir dès le 28 mai. Il y aura tous les joueurs à l'exception de ceux qui jouent la finale de la Ligue des Champions, vu que la Ligue des Champions se déroulera le 28 mai. Les Bleus ensuite auront un match face au Danemark à Saint-Denis le 3 juin. Ensuite, ils iront à Split en Croatie. Ce sera le 6. En Autriche, à Vienne le 10. Puis à nouveau, match retour cette fois-ci au Stade de France contre la Croatie, c'est ça le 13. Donc voilà, donc on va avoir du 3 au 13, 4 matchs de l'équipe de France, ça faisait longtemps. On est content de les retrouver et la liste de Didier Deschamps. Donc au gardien, on aura Areola, Yoris Maignan. En défense, Klaus, Digne, Hernandez, les deux frères, Kimpembe, Koundé, Pavard, Saliba, Varane. Au milieu, un tout nouveau camarade de Marseille, Guendouzi qui s'installe, Kanté, Rabiot, Tchouaméni, sachant que Pogba n'est pas là, il est blessé. Devant en attaque, Ben Yedder, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé, Nkunku et pas d'Olivier Giroud.
Ah, bah toujours. Bon. Ok, bah ça...
les journalistes ont posé la question à Didier. Didier avait l'air un peu énervé d'avoir à se répéter. Il a dit, j'ai déjà expliqué la situation. Et la situation, alors on reprend la situation, c'est qu'il n'y aura pas de Benzema et de Giroud en même temps dans l'équipe. Parce que les deux sont des leaders et qu'il ne peut pas y avoir deux leaders dans l'équipe, ne serait-ce que pour l'ego de l'un ou de l'autre. Donc a priori, statu quo de ce côté-là. On se rappelle que Giroud était revenu quelques matchs, mais c'était parce que Benzema était blessé.
Oui, bien sûr, non, mais ça, on s'en souvient, on avait déjà suffisamment parlé. Hein. Et les choses sont claires.
C'est là où les choses sont claires, les choses sont logiques selon Didier. Tout le monde sauf Didier pense ne pas tout à fait comprendre la logique. C'est-à-dire que bah, Giroud, s'il n'est pas dans l'équipe, quand il revient dans l'équipe, il repasse numéro 1 alors qu'il était derrière les 6. Enfin, tu vois, il n'était même pas sélectionné. Et puis quand il revient, parce qu'il y en a un qui est blessé, il repasse numéro 1. Donc voilà. Mais c'est pour... il est logique avec lui-même, en tout cas. On ne comprend pas la logique, mais lui, il suit son truc. La dernière fois, on avait gagné notre pronostic, c'était Monaco qui s'était imposé contre Lille 2-1. Et avec un doublé de Tchouaméni qui avait mis 2 frappes en dehors de la surface, grosse patate. Et cette semaine, ça sera la dernière journée de Ligue 1, mais tout reste à jouer, à part le titre. Le titre, c'est Paris qui l'a obtenu il y a déjà quelques journées. Mais tout reste à jouer, sachant que Monaco est passé deuxième Et non. Je crois que c'est seulement la deuxième fois du championnat qu'ils sont dans les trois premiers. Donc une journée avant la fin, ils ont le très très bon timing, ils sont à égalité avec Marseille. Donc ils ont le même nombre de points, mais ils ont une meilleure différence de but. Et donc tout va jouer pour la deuxième place entre Monaco et Marseille. Et même derrière, tout est serré, et même pour la relégation, tout est serré. Le sort de Bordeaux, par contre, lui, semble... Ça semble être scellé, là. C'est la Ligue 2, c'est quasi à coup sûr. Il faudrait que eux gagnent 6-0, je crois, et que toutes les autres équipes devant eux perdent.
C'est impossible.
Il faudrait un alignement de planète. Sachant que, pour le moment, ils ont fait deux clean sheets cette saison. Donc, il y a eu deux matchs où ils n'ont pas encaissé de but, dont le match de la semaine dernière, où ils ont fait un 0-0. Donc, effectivement, ils n'ont pas encaissé de but. Après, il faut aussi en marquer des fois de temps en temps.
Bah oui, oui. Bon, et puis là, de toute façon, c'est, effectivement, ça a l'air d'être... passé de toute façon.
Oui, et puis le soir après le match, certains joueurs ont été retrouvés en boîte de nuit à Lorient, donc je pense que on n'est plus trop dans la concentration du côté de Bordeaux, tu vois.
Ils ont baissé les bras, ils ont dit ouais, vas-y, on va s'amuser un peu pour pouvoir avoir un peu le sourire, sinon on va se pendre. Non, mais ils ont raison, il faut profiter un petit peu. Bon, c'est la fin de saison.
Et les supporters n'étaient pas du même avec toi.
C'est ouais, juste, non, bien sûr, j'entends bien, mais c'est quand même le club qui en a pris plein la gueule ces deux dernières années. Enfin, ça a été compliqué quand même pour Bordeaux.
Oui, oui, oui. Bah, ça va continuer. On verra. La Ligue 2, ce serait une bonne chose. Après, il y aura peut-être un redressement économique, une vente forcée, etc. Et peut-être que les Bordeaux plongeront encore plus loin et dans le monde amateur.
Non.
Vu les dettes qu'ils ont.
Tu crois qu'il y a personne qui pourrait sauver le club, qui pourrait faire quelque chose?
Ah bah, ça a déjà été le cas l'été dernier.
Oui, je sais. Mais
j'ai eu un nouveau. Donc, si tous les ans, on est obligé d'avoir. Quand c'est plus difficile de renflouer les caisses quand tu vois que ton club en plus descend.
Oui, non, bien sûr.
Des investisseurs pour s'engager sur la Ligue 2 plutôt que de la Ligue 1, c'est pas vraiment la même chose.
Non, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas eu cette logique. J'avais un peu de cœur, c'est tout, mais je n'ai pas pensé à l'aspect économique qui est quand même l'aspect le plus important. Ok.
Voilà. Et ben, pour cette dernière journée, Clermont affrontera Lyon à domicile et moi je vois plutôt une victoire de Lyon parce que Clermont s'est sauvé. Donc c'est leur première saison en Ligue 1 et ça sera l'année prochaine leur deuxième saison en Ligue 1. Ils n'ont plus rien à jouer, ils sont un peu tranquilles, un peu partis en vacances. Lyon n'a pas grand chose à jouer non plus, ils sont en milieu de tableau, je crois que c'est leur pire classement depuis très longtemps, ils sont 10e. Mais ils vont peut-être envie de montrer qu'ils sont capables de mieux. Et puis surtout, les joueurs, je pense que certains ont envie de partir à l'étranger et c'est leur dernière opportunité de montrer ce qu'ils valent pour se faire voir des autres clubs. Donc une victoire de Lyon à 1,82.
Ok, bon, c'est pas mal pour une dernière. Et après, ce championnat sera terminé. Mais on continuera à parler foot parce qu'on va forcément...
On commencera l'année prochaine, a priori. Ah, c'est ouais. Comme les anniversaires. Moi, ça m'arrive tous les ans.
Le con. Bon, petit Dylan, on va se quitter avec une chanson.
On va se quitter avec la chanson qui s'appelle Hallucinate du groupe australien de Sydney Yours Truly. Et cette fois, ils sont en featuring avec Josh Franceschi. Non, attends, je le prononce mal. Josh Franceschi, qui est le chanteur de Yumiatix.
Ah oui.
Et donc cette chanson Hallucinate, c'est le premier extrait de l'EP de Yours Truly qui sortira le 15 juillet prochain. L'EP s'appellera Is This What I Look Like? Est-ce que c'est bien à ça que je ressemble? Réflexion que peut-être vous aussi vous êtes déjà fait en vous regardant dans la glace. Est-ce que c'est vraiment ça ma gueule? Comme dirait Johnny, quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Mais là c'est Yours Truly avec Hallucinate.
Merci beaucoup Ilan, et on se donne quand même rendez-vous la semaine prochaine.
Oui, on parlera de l'équipe de France, je pense.
Ah.
Ou même de la finale de la Ligue des Champions du 28.
Bon, bah très bien. Alors, je te dis à la semaine prochaine et merci beaucoup.
À la semaine prochaine. Call it safety. Blush shot again. It never ends, 'cause there's a voice in my
Restless.